Bonjour à tous, je suis Gaëlle Lann, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous, dans lequel on va parler de pourquoi ça marche, l'hypnose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Alors je voulais faire un article simple sur comment l'hypnose agit sur le cerveau en gros, et il se trouve que premièrement les références disponibles sont assez peu accessibles au grand public, enfin sont en tout cas assez cliniques et peu nombreuses. Et surtout que, deuxièmement, on dirait que personne n'en sait rien, ou en tout cas pas grand-chose. Alors l'hypnose, ça marche, hein, ça fait ses preuves, mais ça reste un truc assez mystérieux aujourd'hui. Maintenant, le nombre de gens qui ont changé grâce à l'hypnose ne se compte plus, et le milieu médical l'utilise de plus en plus. Donc ça officialise un petit peu la crédibilité et le sérieux de cette pratique. Bref, je suis pas en chercheuse, en tout cas c'est pas dans mon plan de carrière, hein, mais après tout, sait-on jamais. J'ai tâché en fait de rassembler et de simplifier quelques données, donc voilà, cet article évoluera certainement, mais en attendant, il est là. Donc l'hypnose, on dit que c'est un état modifié de conscience, mais laquelle conscience? Quand on dit par exemple Romain n'est pas conscient de l'image qu'il renvoie aux autres, c'est différent de Romain n'est pas conscient tout court. On peut donc déjà parler de conscience de soi. Quand on fait une tentative de méditation ou de l'hypnose, on prend un temps pour être présent à soi. Et cette notion de présence à soi revient souvent, et donc on pourrait lui opposer la notion d'absence de soi. Revenir à soi, ça veut dire que d'habitude, on est parti. On est parti à travailler, à s'occuper de quelqu'un, à faire des courses pour quand on n'oublie pas de manger. Des fois, on oublie même de dormir, on part de soi pour éviter de s'y faire face finalement, et on s'ennuie le troisième jour de vacances où on s'occupe pour ne plus penser à ses problèmes. Et en fait, même sans coller à ces exemples un peu caricaturaux, on est presque toujours occupé par quelque chose, que ce soit sympa ou pas. Et à partir de là, on est absent. On est dans un état d'absence. Et pour changer, on doit passer par un état de présence. Un état de présence, ça peut être accueillir ce qu'on ressent, s'écouter. Mais pas juste oui, j'accueille ma douleur, je m'écoute et ça va, j'ai compris, merci, j'ai mal. Non, ça veut dire s'écouter à un niveau profond. Et ce niveau profond, non seulement on n'a pas franchement appris à y avoir accès, mais en plus, des fois, ça nous arrange bien parce que on n'a pas très envie d'écouter quelque chose comme change de travail et tu vas être en galère pendant 2 ans, certes. Et puis de se retrouver avec encore d'autres difficultés que celles qu'on a aujourd'hui. Mais peut-être si la suite de la phrase c'est mais au moins tu finiras pas à l'hôpital, là peut-être qu'on écoute. Bon bref, en tout cas, passer d'état d'absence à état de présence. Alors ça pourrait être aussi facile que passer de stress à plaisir quand on prend 10 minutes pour manger un fondant. Ça pourrait être aussi facile que passer d'ennui à curiosité quand soudain, quelque chose de bizarre se passe. De bordel à waouh quand on se fait bousculer dans le métro et qu'on croise une fille canon. Changer d'état de conscience, on sait faire. Certains arrivent à passer très vite de la colère à la joie, et puis chez d'autres, la colère, elle va camper de quelques heures à quelques années. On peut donc avoir recours à l'hypnose si on le veut et si on est prêt. Et ici, on va donc accepter, au moins le temps de la séance, de laisser certaines certitudes de côté, de remettre en question certaines croyances et de lâcher prise sur certains attachements émotionnels. Et là, parce qu'on vient pour ça, on s'autorise à revenir à soi, on permet à certaines barrières de s'abaisser, on prend le temps et c'est beaucoup plus facile, d'autant plus qu'on n'est pas tout seul et ça compte aussi. Alors, en soi, il n'y a pas besoin de consulter qui que ce soit pour ça. Maintenant, dans un autre registre, moi je sais que j'ai pris des cours de yoga parce que je trouvais toujours le temps de faire autre chose chez moi. En fait, je faisais jamais de yoga. Et que au moins, en allant à un cours, dans un endroit et à un moment fait exprès, là, j'en faisais. Donc la séance d'hypnose, c'est pareil. C'est aussi un cadre sécurisant, en l'occurrence, pour faire les choses comme elles le méritent. Bien. Et donc, pour la conscience de soi, dans une séance, on peut apprendre des choses sur soi parce que on nous demande souvent de réfléchir différemment, donc on se redécouvre et on élargit ses perceptions de soi-même. Donc il y a cet état de conscience modifié, mais après il y a l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est pareil. Laquelle hypnose? Il y a beaucoup de gens qui, à la fin d'une séance, se disent « Mais on n'a pas fait d'hypnose là en fait. » Alors ça peut être déjà intéressant de vous poser ces questions-là juste pour vous. Qu'est-ce que vous vous attendez à vivre en faisant de l'hypnose? Qu'est-ce qui pour vous validerait qu'il y a bien eu de l'hypnose dans votre séance? Moi je pratique l'hypnose ericksonienne. Il y a plein de façons de la pratiquer. Des fois j'accompagne quelqu'un dans ce qu'on appelle l'état hypnotique et puis après je lui propose une sorte de travail. Et puis d'autres fois, je demande à la personne de parler les yeux fermés pendant toute la séance, et j'adopte une certaine stratégie de conversation qui va l'aider à changer. Ça pourrait très bien se passer les yeux ouverts d'ailleurs, mais après tout, ben, comme on parle jamais les yeux fermés, alors rien que ça, ça commence déjà à modifier certaines perceptions. Milton Erickson, monsieur hypnose, souvent, il racontait des histoires et les gens changeaient. Bref, il y a pas franchement de règles établies ici, il y a des principes, on fait pas ça au pif. Après, tant que la personne change ce qu'elle est venue changer, je crois qu'on s'en fout un peu de comment ça se passe. Enfin, après, évidemment, c'est intéressant et d'ailleurs, ça a été étudié pour qu'on puisse en faire profiter plus de monde, mais bref, les gens changent. Il y a d'autres façons de pratiquer l'hypnose, d'autres courants, d'autres méthodes, ou alors aussi comme on voit en spectacle, par exemple. Il y a aussi des études sur une certaine proportion de gens qui sont faites. On applique la même méthode à tout le monde pour mesurer, mais personne n'est fichu pareil, donc pour l'instant, en fait, ça vaut pas grand-chose. Tout ça fait que du coup, ça devient un petit peu compliqué à mesurer. Un paragraphe qui nous avance bien, n'est-ce pas? Alors, bah, le cerveau dans tout ça. Pour être volontairement simpliste, on va dire que la méditation, c'est « assieds-toi et ne fais rien ». En hypnose, comme en tentative de méditation, on ne fait pas rien. Soit on imagine quelque chose, soit on s'entraîne à ne rien faire. Mais ces deux pratiques, elles font a priori aller le cerveau de la personne lambda dans la même direction, c'est-à-dire celle où on se libère. Cela dit, en méditation, on se focalise sur un objet de concentration tout le long de la technique, et en hypnose, on s'intéresse à plus de choses tout en les choisissant bien. Donc dans le cerveau, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Et parce que on laisse tomber ces barrières et qu'à l'aide de certaines techniques on coupe les pensées, on calme le mental, on s'en libère justement, et bien le cerveau a beaucoup moins de choses à faire. Et il se trouve que quand le cerveau ne fait rien, paradoxalement, il est plus actif. Et oui, parce que d'habitude on est focalisé sur une chose, on est hypnotisé par quelque chose, et on passe d'une chose à l'autre selon son degré d'attention. Des fois on fait ça très rapidement parce qu'on est très dispersé. Mais quand on enlève ça, le cerveau, il n'a plus à se concentrer sur cette chose. Il n'a plus à solliciter à fond juste quelques-unes de ses fonctions. Et donc il lâche prise sur celle-ci et ça permet à toutes les autres de s'éveiller et de s'exprimer. Du coup, comme tout le monde est réveillé, on a accès à beaucoup plus de choses que d'habitude. Imaginez 100 bonhommes dans votre cerveau. Il y en a 10 qui travaillent, c'est toujours les mêmes. C'est une image, hein, ça n'a rien à voir avec le truc « on utilise 10% de notre cerveau, j'en sais rien ». Et ces 10-là, ils savent faire plein de choses, mais pas tout. Mais ils sont du genre à savoir qu'ils savent tout faire, enfin au moins 7 d'entre eux, et les autres, ben, ils ont beau être 90 qui savent faire plein d'autres choses, ces 10-là se disent qu'ils gèrent suffisamment bien tout seuls. Et vous pouvez pas envoyer un courrier aux autres, les 10, ils le reçoivent avant, pour eux. Mais des fois, il y a un courrier filou qui passe quand même. Alors bah, pendant ce temps, les 90, ils regardent ce qu'ils font, ils regardent ce qu'on vit, ce qui se passe ailleurs, ils jouent au Playmobil, ils discutent, enfin bon. Et l'hypnose, c'est un peu dire à ces 10-là, les mecs, venez jouer au Playmobil avec nous. Et là, ils apprennent des nouvelles histoires. Faire appel à toutes ces ressources internes, on dit. Donc entraînez-vous à ne rien faire, faites confiance à votre cerveau, et petit à petit, eh bien, votre vie deviendra naturellement beaucoup plus facile à gérer. Voilà pour l'instant, donc si vous avez des remarques, des choses à corriger ou à ajouter, eh bien, les commentaires sont à vous, je me ferai un plaisir de vous lire. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt !